Peu de gens aiment déménager parce que le changement, donc l'inconnu, fait peur. Et puis ce n'est pas une sinécure que de faire des cartons, démonter les meubles, trouver un nouveau logement qui corresponde à son budget, s'habituer à un nouvel espace de vie et se reconstituer des systèmes relationnels. Si en plus, c'est pour aller s'installer dans un endroit moins bien, alors là, c'est l'angoisse plus. C'est exactement ce qui est arrivé au patriarche Abraham, mais en pire, car il a dû partir sans savoir où il allait et va finir dans le pays de Canaan, dont la civilisation était beaucoup moins avancée que celle qu'il quitte. Le patriarche n'a pas amélioré son sort, loin s'en faut. Dans le Nouveau Testament, ce départ est relaté comme suit. Le Dieu glorieux apparut jadis à notre ancêtre Abraham, quand il vivait encore en Mésopotamie, avant de s'établir à Charan, et il lui dit « Quitte ton pays et ta parenté et va dans le pays que je te montrerai. » C'est ainsi qu'Abraham quitta la Chaldée et vint se fixer à Charan. Fin de citation. Abraham obéit à Dieu qui l'appelle à quitter son pays, sa famille, ses amis, son travail, sa vie très confortable dans la ville de Our en Irak pour aller dans l'inconnu. Selon l'usage, il est accompagné de son père et c'est à cause de lui qu'il s'arrête à Charan en Syrie au lieu de continuer comme Dieu le lui avait demandé. Mais il n'avait sans doute pas le choix car à cette époque, la coutume voulait que ce soit l'ancêtre du clan qui dirige. L'Éternel savait bien cela, alors il a simplement attendu jusqu'à ce que Abraham soit prêt suite au décès de son père. On peut quand même se demander pourquoi Dieu voulait qu'Abraham quitte tout, famille, pays et tradition. Un texte de l'Ancien Testament explique les raisons de cette exigence divine. Je le lis. Il y a bien longtemps, vos ancêtres, en particulier Terah, le père d'Abraham et de Nahor, ont habité de l'autre côté de l'Euphrate et ils rendaient un culte à d'autres dieux. Fin de citation. La réponse est simple, courte et déprimante. Abraham et sa famille étaient des idolâtres. Ils rendaient un culte à d'autres divinités. Comme l'humanité était toujours dans les ténèbres spirituelles, l'Éternel devait faire quelque chose ou juger à nouveau les hommes. Or, il n'est pas seulement un Dieu de justice, mais aussi de grâce qui cherche à repêcher sa créature fautive. Je continue à lire dans le chapitre 12 de la Genèse. Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Charan. Il emmena Sarai, sa femme, son neveu Lot, les biens et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'à un lieu appelé Sichem, jusqu'au chêne de Moré. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. Versets 4 à 6. La prompte obéissance d'Abraham, enracinée dans sa foi en Dieu, caractérise la vie du patriarche dans son ensemble, malgré des défaillances en cours de route. Mais cette fois-ci encore, il ne part pas seul. Il emmène son neveu, Lot, qu'il prit sous sa protection suite au décès de son frère, selon les coutumes de son temps. Abraham est un chef de clan, nomade à la tête d'un cheptel important et de nombreux serviteurs, et sa prospérité va aller croissante. Il se rend à Sichem, où se trouve un sanctuaire réputé dont témoigne le chêne sacré de Moré. Ça fait penser aux Gaulois qui cueillaient du gui sacré sur les chênes. De là vient cette coutume en France de s'embrasser et de se souhaiter la bonne année sous des branches de gui parce que ça porterait bonheur. Comme quoi, la superstition a la vie dure. Je continue. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Béthel. Il établit son campement entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il y construisit un autre autel à l'Éternel et invoqua son nom. Ensuite, Abraham repartit vers le sud. D'étape en étape, il gagna le Négev. Versets 7 à 9. Dans l'Ancien Testament, les apparitions de l'Éternel revêtent des formes différentes qui souvent ne sont pas précisées parce que ce n'est pas cela qui compte. Par contre, l'important est qu'Abraham érige des autels dans tous les lieux où Dieu lui apparaît. Son habitude était d'établir son campement et de dresser un lieu de culte pour invoquer l'Éternel, attestant par là qu'il croit que ce pays lui appartient. Tôt ou tard, les habitants du pays vont savoir qu'Abraham honore l'Éternel et non pas des idoles comme eux. C'est ainsi qu'il témoigne de sa foi au Dieu du ciel et de la terre partout où il passe. Béthel veut dire maison de Dieu. Cette ville est dans l'Ancien Testament celle qui est la plus souvent mentionnée après Jérusalem, dont elle est distante de 15 km. Le Négev est au sud de Jérusalem, un plateau stérile qui mène au désert. Avec l'appel que lui a adressé l'Éternel commence véritablement l'histoire d'Abraham. Figure majeure de la foi monothéiste, parce que dans le Nouveau Testament, il est appelé le père de tous les croyants. Abraham est mis en route par la parole de Dieu qui est à la fois un commandement et une promesse, mais aucune raison n'est donnée pour justifier le choix divin. Cependant, son élection particulière est directement associée au projet de Dieu pour toute l'humanité puisqu'il lui dit « Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Par cet homme, puis ses descendants, l'Éternel a pour but le salut d'une humanité dégénérée. Abraham le migrant commence donc son pèlerinage. Il est appelé à quitter le monde établi des nations de l'après-Babel pour devenir le premier maillon du peuple de Dieu et démarrer le plan de l'Éternel qui veut sauver l'humanité. Au milieu des nations païennes du pays de Canaan, Abraham va apprendre la confiance, l'obéissance et l'adoration du seul vrai Dieu. Mais cela ne se fera pas sans échec. Je continue le texte. Une famine survint dans le pays. Alors Abraham se rendit en Égypte pour y séjourner quelque temps, car la famine sévissait dans le pays. Lorsqu'il approchait de l'Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Écoute, je sais que tu es très belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront, « C'est sa femme, ils me tueront et te laisseront en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. » Versets 10 à 12. Ça commence plutôt mal. Abraham était dans le pays promis, et Dieu n'avait pas l'intention qu'il le quitte, même en période difficile. Un beau matin, en se levant, il a dû remarquer que le nombre de caravanes se dirigeant vers l'Égypte créait un embouteillage monstre devant sa tente. En effet, c'était là-bas que, traditionnellement, on allait se ravitailler en période de sécheresse. Grâce aux eaux du Nil, ce pays était moins affecté par les caprices climatiques. En parlant aux voyageurs, Abraham apprend que dans le nord, la situation empirait, alors sa confiance en l'Éternel a flanché. Il n'a pas cru que Dieu subviendrait à ses besoins, à ceux de ses serviteurs et de ses troupeaux en période de famine, et il est parti. Pourtant, il avait cette promesse d'être à la fois béni et une source de bénédiction. Abraham sort de la volonté de Dieu et d'emblée, les choses se compliquent. Les découvertes archéologiques justifient les peurs d'Abraham car on a trouvé un papyrus qui relate l'histoire d'un pharaon qui envoya deux corps d'armée pour s'emparer d'une femme après avoir tué son mari. Ajoutez à cela qu'un commentaire de la Genèse découvert dans les parchemins de la mer morte décrit la femme d'Abraham comme étant d'une beauté légendaire et on sent que ça va mal tourner. Le patriarche savait donc qu'il prenait de gros risques et que sa vie était en danger, mais il prend néanmoins la décision d'aller en Égypte. Il s'enfonce dans un tunnel. La proposition qu'il fait à sa femme est à moitié vraie car elle était sa demi-sœur. Mais ce demi-mensonge avait ni plus ni moins pour but que de tromper. Et effectivement, tout se déroula comme prévu. Pharaon prit Sarai et la fit préparer. Salon de coiffure, les ongles, les bains à la noix de coco, des toilettes, le grand show, avant qu'elle ne passe la nuit avec lui, puis fasse partie de son harem. En contrepartie, il traita Abraham avec bienveillance. Mais Dieu n'apprécie pas cette comédie. Je continue le texte plus loin. L'Éternel infligea de grands maux au Pharaon et aux gens de sa maison. Alors Pharaon fit venir Abraham et lui dit « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était ta femme? Maintenant, reprends-la et va-t'en. » Plutôt pathétique, le patriarche. Nous arrivons au chapitre 13 que je commence à lire. Abraham quitta donc l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction du Négev. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. D'étape en étape, il retourna du Négev jusqu'à Bethel, au lieu où il avait auparavant établi son campement, à l'endroit où était l'autel qu'il avait précédemment érigé, et il invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi des moutons, des chèvres, des bovins et des tentes, et le pays ne suffisait pas pour qu'ils puissent habiter ensemble, car leurs troupeaux étaient trop nombreux, et de plus les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Alors les bergers d'Abraham se disputèrent avec ceux de Lot. Versets 1 à 7. Abraham rentre au bercail dans le pays de Canaan, plus riche que jamais, mais un peu honteux. Pendant tout ce temps, Dieu ne lui a pas apparu une seule fois. Tout au long du récit, l'auteur ne cherche jamais à taire les faiblesses du patriarche. Après ses péripéties peu glorieuses, Abraham retourne à Bethel où il avait déjà bâti un autel. C'est un peu comme s'il revenait à la maison après un long et difficile périple. Mais là encore, les choses se gâtent, car voilà qu'il a des ennuis avec son neveu, parce que tous deux ont tellement de troupeaux que les pâturages et l'eau ne suffisent pas. Comme on dit, l'abondance peut nuire. Résultat, Abraham et Lot se querellent tandis que leurs bergers respectifs se disputent comme des chiffonniers. Ce spectacle, qui faisait plutôt désordre, offrait un piètre témoignage aux habitants du pays de leur foi en l'Éternel. Heureusement, la générosité d'Abraham résout le problème. Je lis la suite. Abraham dit à Lot, « Nous sommes de la même famille. Il ne faut donc pas qu'il y ait dispute entre moi et toi, entre mes bergers et les tiens. Séparons-nous plutôt. Tout le pays est à ta disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Alors Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Tsoar, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre. Elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et il se dirigea vers l'est. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham se fixa dans le pays de Canaan et Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu'aux environs de Sodome. Or, les gens de Sodome étaient pervertis. Ils commettaient de grands péchés devant l'Éternel. Versets 8 à 13. La région que choisit Lot est aujourd'hui désertique, mais l'archéologie a confirmé que du temps d'Abraham, cette vallée située à l'est-sud-est de la mer Morte était bien arrosée et très peuplée. Lot n'avait pas le cœur noble de son oncle et il prend les plus beaux morceaux, ne sachant pas qu'ils étaient empoisonnés, comme la suite va le révéler. Les apparences sont souvent trompeuses et Lot, dans l'arrogance de sa jeunesse, va en faire les frais. Je lis la suite. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Lève-toi !» Parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Alors Abraham déplaça son campement et vint se fixer près des chênes de Mamré aux environs d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Versets 14 à 18. Les grains de poussière de la terre étaient une image courante dans le Proche-Orient ancien qui évoquait une descendance nombreuse. L'Éternel confirme sa parole à Abraham à un moment où les choses n'allaient pas fort pour lui, vu qu'il ne possédait rien de ce qui lui avait été promis. L'Éternel lui enseigne à tenir bon dans sa foi malgré les apparents. Confiant en Dieu, Abraham laisse Lot, pourtant son cadet, choisir son lieu d'installation. La ville d'Hébron, située à 35 km de Jérusalem, est une des plus anciennes du Proche-Orient. À 3 km d'Hébron, le sanctuaire de Mamré devait son nom à un puissant habitant du pays allié avec Abraham. Ce lieu existe toujours et s'appelle El-Kaalil, ce qui veut dire « ami de Dieu en souvenir d'Abraham ». Nous voici arrivés au chapitre 14 de la Genèse que je commence à lire. Il arriva au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, c'est-à-dire Babylone, d'Arioch, roi d'Elazar, de Kedor Laomer, roi d'Élam, et de Tidéa, roi de Goïm, que ces quatre rois firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bircha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Shéméber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Ces derniers rassemblèrent leurs troupes dans la vallée de Sidim, que recouvre aujourd'hui la mer Morte. Pendant 12 ans, ils avaient été assujettis à Kedor Laomer, mais la 13e année, ils se révoltèrent. Versets 1 à 4. Il y a beaucoup de noms compliqués à prononcer et à écrire, parce qu'ils sont transcrits phonétiquement. Ce chapitre est cependant important car un véritable document historique. Autrefois, on doutait fort qu'en cette période reculée, environ 2000 ans avant Jésus-Christ, des rois de la lointaine Mésopotamie, l'Irak actuel, aient pu conduire une expédition militaire de cette envergure en Palestine. Aujourd'hui, on a la preuve que de telles campagnes avait bien lieu. Lors de fouilles menées au Proche-Orient, les archéologues ont confirmé l'existence de la plupart des noms cités ici. Ils ont aussi découvert que les villes étaient alors très fortifiées. Les quatre qui sont mentionnés, Sodome, Gomorre, Adma et Tseboïm, furent plus tard engloutis par la mer Morte. C'est ici la première guerre de grande envergure mentionnée dans les Écritures. Elle figure dans le récit parce que Lot, le neveu d'Abraham, va y être impliqué jusqu'au cou. Pris entre deux feux et en très mauvaise posture, il va provoquer l'intervention de son oncle. La suite du texte, dont je vous ferai grâce, donne les détails de l'expédition militaire qui mit à feu et à sang toute la région, ainsi que la victoire des rois venus de l'Est contre ceux qui étaient en Palestine. Je lis plus loin. Les vainqueurs s'emparèrent de tous les biens de Sodome et de Gomorre. Ils prirent toutes leurs réserves de vivres et s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi Lot, le neveu d'Abraham, avec ses biens, car il demeurait à Sodome. Un rescapé vint annoncer la nouvelle à Abraham, l'Hébreu, qui habitait près des chênes de Mamré, l'Amoréen, un frère d'Eshcol et d'Adner. Ces trois frères étaient tous trois des alliés d'Abraham. Versets 11 à 13. C'est la première fois qu'on nomme Abraham, l'Hébreu, du nom d'un de ses ancêtres, appelé Héber. Cela faisait 13 ans que les cinq rois de Palestine payaient un tribut annuel aux quatre rois de Mésopotamie. Se croyant suffisamment forts, ils se révoltèrent, mais connurent une cuisante défaite. La confédération venue de l'Est enlevèrent toutes les richesses des vaincus, toutes leurs provisions, et remontent tranquillement vers le nord, sur la côte ouest de la mer Morte, pour rentrer chez eux. Seulement, voilà! Cette troupe victorieuse passe à proximité du territoire occupé par Abraham. Le hasard de Dieu fait bien les choses quand on vit dans la confiance en lui.